Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez sur France Culture du lundi au jeudi, déconfinement oblige. Une émission préparée ce matin par Marco Le Rideau, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Lucas Lazo, réalisée par Benjamin Huet et mise en onde ce matin par Inès De Bruyne. Deuxième temps de notre série consacrée aux droits et libertés en temps de coronavirus. Après nous être intéressés hier à la liberté de la circulation, avant d'aborder demain la question du droit à la vie privée, jeudi celle du droit du travail, tournons-nous aujourd'hui vers le Moyen-Orient pour tenter d'évaluer l'impact de la pandémie sur la liberté d'expression et d'information.
Malheureusement, on a très peu d'informations à la télévision. Il y a des chiffres sur les décès qui circulent, mais on n'est pas sûr qu'ils soient vrais. Les responsables de la santé ne nous disent rien. Et nous, on se promène tous là, dans les rues, sans savoir ce qu'on risque et si ces masques sont vraiment efficaces.
La télévision d'État nous donne des statistiques, mais quand nous allons à l'hôpital, nous voyons que c'est différent. Le nombre de décès est bien plus élevé.
Que ce soit pour le nombre de cas ou le nombre de morts du Covid, nous n'avons toujours pas de chiffres précis. Quand nous avons des chiffres précis, il est possible de faire des projections. C'est aussi important pour pouvoir comparer la trajectoire du pays avec celle des autres. Et puis, tout simplement, pour connaître la réalité de la situation.
Voilà quelques témoignages recueillis à Téhéran et à Istanbul au mois de février par France 2 et France 24. Premier pays du Moyen-Orient touché par la crise, l'Iran l'a d'abord minimisé dans le discours officiel, contribuant à l'amplifier dans les faits. Mais alors que les autorités tardaient à fermer les lieux saints, la population a rapidement mis en doute les chiffres donnés par la télévision d'État au sujet du virus. Fait rare, cette même télévision d'État a laissé un député de Rome annoncer une cinquantaine de morts dans sa ville, alors que les autorités nationales, elles, en comptabilisaient beaucoup moins. Alors que la crise sanitaire laissait craindre en Iran un verrouillage complet de l'information, semblable à ce qui s'était produit lors des manifestations de novembre dernier, quand les réseaux sociaux avaient été coupés, la situation se révèle beaucoup plus ambivalente. Une ambivalence que l'on retrouve aussi en Turquie, autre pays souvent dénoncé, et à raison pour ses entraves à la liberté de la presse, touchée plus tardivement par l'épidémie. La Turquie, si la censure n'y semble à première vue pas renforcée par l'épidémie, celle-ci permet en revanche de détourner l'attention médiatique d'autres sujets peut-être plus clivants, comme les interventions en Syrie et en Libye, dont il faudra peut-être parler. Alors comment la crise sanitaire influe-t-elle sur la production, la diffusion d'informations en Iran, en Turquie? Offre-t-elle une opportunité pour les pouvoirs en place d'accroître encore la pression sur les journalistes? Et dans ce contexte inédit, comment les populations s'informent-elles? Certaines des questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité Dorothée Schmidt. Bonjour.
Bonjour.
Merci Dorothée Schmidt d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous aviez écrit il y a quelque temps la Turquie en 100 questions. Avec nous également Armin Arefi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes journaliste au Point, ancien correspondant en Iran. Vous connaissez très bien évidemment l'Iran, dont il sera largement question aujourd'hui. Et puis vous êtes auteur, vous, d'un ouvrage qui était paru l'année dernière chez Plon, Un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique. D'abord, une première question un peu générale. On va avoir évidemment le temps de détailler ensemble. Mais l'Iran n'a pas attendu, ni la Turquie, n'ont pas attendu l'un et l'autre la Covid pour exercer un contrôle très rigoureux sur l'information. Mais est-ce que vous diriez que ce contrôle s'est accru ces dernières semaines à la faveur de cette crise sanitaire, qu'elle offre au fond une opportunité parfaite pour mettre encore davantage la pression sur les journalistes, ou c'est pas si évident que ça? On va commencer par la Turquie avec vous, Dorothée Schmidt.
Écoutez, je dirais que la situation ne change pas tellement, c'est-à-dire qu'il y a une telle habitude de contrôle, mais c'est un contrôle assez, je pourrais dire, assez négocié ou assez souple de l'information en Turquie, c'est-à-dire qu'il y a une grosse capacité de dissuasion du pouvoir vis-à-vis de l'opposition, qui pourtant s'exprime, hein, mais ensuite on a des lignes rouges qui sont le président de la République lui-même. Et là, on a bien eu l'impression au début de la crise que tout ce qui touchait au Covid allait devenir un secteur stratégique où effectivement tout contradicteur finalement de la parole officielle allait avoir des problèmes. Mais en réalité, les réseaux sociaux sont très vivaces, l'information circule beaucoup. Et la chance qu'a le gouvernement, c'est que finalement, le niveau de contamination est assez faible et que pour le moment, le nombre de morts est également assez faible en Turquie. Donc, on n'a pas besoin en réalité d'en rajouter sur la question du Covid spécifiquement. Et finalement, le contrôle de l'info, il était déjà bien en place sur tout le reste.
Oui, même s'il y a quand même des cas de journalistes qui ont traité précisément de la question du Covid et qui en ont fait les frais. Je pense par exemple à Kaan Gün, qui a été placé en détention provisoire après avoir critiqué le fait que le président turc avait communiqué un numéro de compte bancaire destiné à recueillir les dons de la population pour aider à répondre à la pandémie. Voilà, il a été arrêté.
Alors là, précisément, vous notez que c'est le président de la République qui est en cause et c'est les politiques de polarisation systématique de Tayyip Erdogan qui sont encore en cause. Donc là, on est sur, je dirais, sur la suite des processus qu'on avait auparavant.
Oui, c'est moins la Covid que la question du président, c'est ça que vous voulez dire.
Et en plus, enfin, il y a quand même un aspect intéressant de la crise de Covid, c'est qu'évidemment, elle permet de détourner l'attention. Donc ça, pour moi, c'est le point le plus important aujourd'hui.
Armin Arefi, si on regarde l'Iran, est-ce que là aussi, vous diriez qu'au fond, ce contrôle, c'est pas forcément accru, ou si c'est très clair, on a eu, parce que on est un peu dans le même environnement, c'est-à-dire on a un contrôle là aussi négocié, pour reprendre la formule de Dorothée Schmidt. Qu'en est-il aujourd'hui avec cette crise sanitaire ?
Alors oui, effectivement, je pense que la situation n'a pas véritablement changé. Dans les médias, il n'est pas bien sûr permis de remettre en cause le système, mais dans le cadre même autorisé par le système, il y a des critiques que l'on a pu entendre dans la lignée de ce qui s'est passé lors des manifestations anti-régime de novembre, ou des doutes sur l'origine du tir qui a frappé l'avion d'Ukraine Airlines en janvier, qui avait été en fait abattu par les autorités iraniennes. On a aussi eu des critiques émises par des organes gouvernementaux ou semi-gouvernementaux, et surtout de la part de députés du Parlement iranien, de l'ancien Parlement, parce que le Parlement a entre-temps été renouvelé, donc des députés dont certains conservateurs, qui ont tout de suite été les premiers à remettre en cause les chiffres officiels. Donc c'est vrai que là-dessus, la remise en cause des chiffres officiels n'a pas été censurée par les autorités, même si les véritables enquêtes sur l'ampleur réelle ont été fournies par des médias soit d'opposition, ou alors des médias basés à l'étranger.
Vous faites allusion à un rapport d'un centre de recherche du Parlement iranien qui disait que le bilan réel de cette crise sanitaire serait supérieur de 80%, et les cas avérés seraient 10 fois plus nombreux que ce qui a été dit officiellement. On va revenir sur ce décalage, mais d'abord, on va prendre les chiffres qu'on a aujourd'hui à notre connaissance, Dorothée Schmidt, Armin Arefi. En Iran, le bilan de la Covid, il fait état, j'ai regardé hier soir, d'un peu plus de 7400 décès pour 135 000 cas avérés. Du côté de la Turquie, on a officiellement plus de 4300 morts pour 156 000 cas avérés, un petit peu plus. Alors, on aurait pu s'attendre, et d'ailleurs on s'attendait il y a quelques semaines, à ce que le Moyen-Orient traverse une crise sanitaire majeure. Et on est en train de voir qu'au fond, la situation sanitaire, humanitaire, n'est pas plus préoccupante qu'en Europe. Si on regarde le bilan officiel, l'Iran et la Turquie totalisent à L2 2,5 fois moins de morts qu'en France, pour une population qui est quasiment, pas tout à fait, quasiment le triple. On a 80 millions d'habitants des deux côtés, quasiment, pas tout à fait. Donc on voit bien que cette région, en réalité, résiste bien à la crise. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette résistance, Dorothée Schmidt ?
Alors, effectivement, se pencher sur ces deux pays, c'est très intéressant, parce que c'est deux cas très différents. Mais en fait, tous les cas sont spécifiques au Moyen-Orient. On a tendance à généraliser un petit peu l'explication. La seule chose qu'on a de vraiment commune dans la région, c'est effectivement un assez faible niveau de contamination et une létalité assez faible pour le moment, qui est probablement due d'abord au fait que... alors d'abord, toute la région a été contaminée à partir de l'Iran, qui lui-même a été contaminé à partir de la Chine. Une fois qu'on a vu, l'alerte a été donnée en Iran, les pays du Golfe, les pays arabes du Golfe se sont protégés assez rapidement en interrompant la circulation. L'Arabie Saoudite a décidé d'interrompre le pèlerinage, le petit pèlerinage, et puis le Hajj, le grand pèlerinage, très vite. Il y a eu des mesures de confinement qui ont été rapidement prises, des mesures de traçage des populations. Donc ça, c'est pour le Golfe, qui fait un peu écran, je dirais, entre l'Iran et le reste de la région. La Turquie, qui est un pays hyper connecté, a très vite eu des cas importés d'Iran, et elle en a déjà répercuté très rapidement aussi vers d'autres régions du monde. Et puis, une fois que l'alerte a été donnée, très vite, on a suspendu les liaisons aériennes. Et puis on a une population qui est très jeune, et pour la Turquie, on a un système de santé qui est de très bonne qualité, avec un nombre de lits en soins intensifs qui est également très élevé, parce que la politique de santé, c'est un pilier de la popularité de l'AKP, c'est un pilier de la stratégie de contrôle positif, je dirais, de la population par Tayyip Erdogan. C'est-à-dire que donner l'éducation et la santé aux Turcs, démocratiser l'accès à la santé, c'était extrêmement important pour l'AKP.
Sans compter que c'est devenu le pays, pardon de vous couper, c'est devenu une véritable plateforme. On vient y faire du tourisme médical de toute la région, même de l'au-delà.
C'est un pays qui a aussi développé le tourisme médical et qui d'ailleurs recommence à faire des campagnes de pub pour ça, sachant qu'effectivement, il y a une vraie sensibilité aux questions de santé aujourd'hui. La Turquie, qui pendant ces dernières années était beaucoup mise en valeur comme destination pour la chirurgie esthétique, les implants capillaires, etc. Aujourd'hui, elle fait de la pub pour les plateformes médicales sérieuses, je dirais, entre guillemets, parce qu'elle a bien senti cette sensibilité. Donc, la diplomatie sanitaire, ça devient vraiment tout un pan du soft power turc, de sa capacité d'influence à l'extérieur.
Armin Arefi, avant de revenir au cœur de notre sujet du jour, c'est-à-dire la question de l'information, et en particulier, là, on va regarder le décalage entre ce bilan officiel et peut-être la réalité, mais sur le fait qu'en réalité, en Iran, la crise sanitaire est évidemment importante, mais peut-être pas aussi importante que ce qu'on aurait pu craindre.
Oui, effectivement, on attendait des chiffres autrement plus élevés, notamment en raison de la date de l'arrivée des premiers cas en Iran, c'est-à-dire officieusement fin janvier, officiellement à la mi-février. Alors maintenant, c'est vrai que comme en Turquie, le système de santé en Iran est de relative bonne qualité, et ça ne date pas d'hier, maintenant, encore une fois, et je pense qu'il faut... remettre en cause les chiffres officiels. Très vite, les autorités iraniennes ont souhaité tenir un décompte quotidien, mais d'après les témoignages que l'on a pu recevoir, un grand nombre de décès n'ont pas été mis sur le compte du coronavirus.
Délibérément, il y a eu une intention en Iran de sous-évaluer les chiffres.
Alors, en tout cas, c'est ce que nous disent les médecins que l'on a pu interroger, c'est-à-dire que beaucoup de décès étaient imputés à des problèmes respiratoires et pas au coronavirus. Ce ne sont que les symptômes les plus graves qui, au bout d'un certain moment, ont été comptabilisés comme coronavirus. Donc, d'un côté, le fait que que les tests n'aient pas été effectués à grande échelle. De l'autre, le fait que beaucoup de cas sont passés à la trappe peut mettre en doute les chiffres officiels. C'est vrai que 7450 morts et 137 000 infections, c'est relativement peu par rapport à ce qui était attendu, en tout cas au début de la pandémie. C'est vrai que beaucoup de gens, d'ailleurs, comme vous le citiez, le propre rapport du Parlement évoque des chiffres autrement plus élevés, 80% au-dessus des chiffres officiels.
Dorothée Schmid, est-ce qu'il y a du côté de la Turquie une intention de sous-évaluer le bilan? Et de façon plus générale, comment est-ce qu'on a instrumentalisé du côté de Erdogan le bilan sanitaire?
Alors,
et la gestion globale, gestion médiatique globale de cette affaire-là.
Oui, bien sûr. Sur la question des chiffres, en fait, on a un peu le même problème dans tous les pays. Et c'est vrai que c'est une interrogation qu'on a beaucoup sur le Moyen-Orient, parce qu'on est dans des contextes où, évidemment, l'information est extrêmement contrôlée, la parole officielle compte beaucoup. Mais il y a des pays où les réseaux sociaux sont hyper actifs et la Turquie en fait partie. Donc, comme je vous le disais en préparant cette émission, on a travaillé sur le Liban où on s'étonne qu'il y ait des niveaux de contamination et de mort très très faibles. Mais en réalité, quand on est dans des petits pays où on a une absence de confiance envers le gouvernement et où les réseaux sociaux restent très actifs, c'est quand même assez difficile de masquer la réalité. Donc je pense que en Turquie, les chiffres sont, je pense qu'ils sont plus fiables qu'en Iran. Que l'info est malgré tout moins contrôlée et qu'il y a une question de responsabilité du gouvernement qui est extrêmement forte sur ces questions de santé publique. Donc la question que nous on se pose maintenant, c'est si tout simplement il n'y a pas un effet retard, c'est-à-dire qu'on a quand même surveillé la courbe en Turquie où ça continue à monter. Maintenant on est en phase de plateau et Erdogan annonce qu'il veut passer à moins de 1000 contaminés par jour, je crois que c'est le chiffre qu'il a annoncé ces derniers jours, mais on n'est pas du tout à l'abri d'une reprise de l'épidémie. Bon, les lieux sur lesquels on peut avoir un peu des doutes sur les chiffres, c'est quand même dans le sud-est, toutes les zones kurdes où on sait que le gouvernement gouvernement est en conflit, en réalité, avec la population elle-même, et où il peut y avoir des formes de négligence. Mais on sait aussi que 60% des cas sont à Istanbul. Istanbul, c'est une métropole hyper connectée, hyper organisée, et dont le maire aujourd'hui est un maire d'opposition. Donc je pense que sur les chiffres en Turquie, moi, j'aurais pas énormément de doutes. Après, sur l'instrumentalisation de la crise, la chance d'Erdogan, c'est précisément d'avoir réussi à expliquer dès le départ que la Turquie surmonterait cette crise sanitaire beaucoup mieux que tous les autres pays, à considérer que ça, c'était plié et que d'une certaine façon, c'était une opportunité internationale pour valoriser la Turquie comme une puissance résiliente. C'était un phénomène qui allait égaliser le système international et qui allait lui permettre de renégocier ses relations avec des tas de partenaires, parce que en interne, ce n'était pas une question. En réalité, c'est une question, hein. Ne serait-ce que le confinement. La Turquie est confinée tous les week-ends. Là, je vous rappelle qu'on est on sort du Ramadan. Il y a quand même un moment qui a vu des petits pics de contamination un peu partout au Moyen-Orient, parce que c'était impossible de confiner la population de la même manière que le reste du temps. Et là, en Turquie, on a eu un confinement pour l'Aïd complet. Donc, c'est pas évident. Oui. Mais Erdogan a des taux de popularité qui sont plus élevés que d'habitude. Ça, c'est très important. Les sondages, aujourd'hui, lui donnent une crédibilité de réélection présidentielle plus élevée que d'habitude. Donc, la crise du coronavirus, elle a permis à Erdogan, au contraire, de bétonner sa popularité.
Alors, pour l'Aïd, c'est vrai qu'on a un peu durci les choses, mais en réalité, si on regarde, et c'est pareil du côté de l'Iran, on a eu des modalités de confinement relativement souple, même si on compare par exemple à la France, avec notamment au début des mesures seulement incitatives qui permettaient de garder quand même un certain niveau d'activité. C'est quand même assez étonnant pour des régimes qui sont plutôt reconnus pour leur autoritarisme, à tout le moins, Armin Arefi.
Oui, mais alors le problème, c'est que l'Iran est déjà dans une situation économique extrêmement dure en raison des sanctions, et que le gouvernement était véritablement face à un dilemme, celui de sacrifier l'économie ou la santé de la population. Donc il a dû trouver une sorte de solution idoine, c'est-à-dire décider à encourager la population à rester confinée, fermer les liaisons entre différentes provinces, mais il n'y avait pas, en tout cas, de mesures coercitives, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas obligés de rester chez eux, notamment dans le but de ne pas abattre ce qui reste de tout ce qui est économie informelle et qui permet quand même à un nombre non négligeable d'Iraniens de vivre. Et c'est vrai qu'on a assisté à une véritable bataille d'un côté entre l'aile dure du régime, incarnée par les gardiens de la révolution, qui, eux, étaient pour un système extrêmement strict de confinement, on va dire à la française, et le gouvernement qui ne souhaitait pas sacrifier l'économie. Donc, et d'ailleurs,
ça c'est intéressant, parce que ça veut dire, pardon, dans ce cas précis, que ceux qui ont eu gain de cause, c'est pas les plus conservateurs, c'est pas les radicaux, c'est ceux qu'on appelle. Alors évidemment, il faut toujours mettre beaucoup de guillemets, mais disons les réformateurs,
les modérés,
on leur trouve plein de qualificatifs différents, les pragmatiques, ce qu'on veut. Mais en tout cas, on pensait précisément que le rapport de force était inversé et qu'aujourd'hui c'était les conservateurs radicaux qui avaient pris l'ascendant sur les autres. C'est pas si clair.
Oui, mais ce qui est extrêmement intéressant en Iran, c'est qu'on a assisté à cette bataille. D'ailleurs, on la voit également dans nombre de cas, comme je disais, le crash de l'avion d'Ukraine Airlines, où il y avait vraiment ceux qui étaient partisans du mensonge et les autres qui voulaient révéler la réalité parce qu'ils savaient que la vérité éclaterait au grand jour. Là, pareil, au début, il faut pas oublier que l'Iran a mis beaucoup de temps à prendre des mesures adéquates parce que les plus conservateurs, dans la ville de Rome, ville religieuse, symbole de l'islam politique iranien, on refusait de fermer les sanctuaires. On refusait, quand je dis on, je parle bien sûr des autorités religieuses et des forces les plus conservatrices, refusaient de mettre la ville véritablement sous quarantaine, alors que le gouvernement et au sein du gouvernement, le ministère de la Santé, appelait à des décisions beaucoup plus strictes. Donc l'Iran a mis plusieurs semaines à prendre la décision, ce qui a permis au virus de prospérer. Même chose pour ce qui est, par exemple, des vols. C'est quand même assez intéressant de noter que
L'Iran est sous sanction et l'un des derniers pays avec lequel elle fait du commerce, c'est la Chine. Or, c'est principalement de Chine qu'est arrivé le virus, de travailleurs chinois dans la ville qui était venue à Rome. Et malgré tout, les liaisons aériennes Téhéran-Pékin se sont poursuivies. Ouais. Via notamment la compagnie liée au Gardien de la Révolution, mais qui est une compagnie civile, MAN Air. Donc pendant un mois, les liaisons se sont poursuivies. Donc d'une certaine manière, il est apparu que le gouvernement et les experts au sein du gouvernement avaient en tout cas les décisions plus, en tout cas des avis beaucoup plus scientifiques que les forces religieuses. Et c'est vrai que là-dessus, les autorités religieuses sont apparues comme perdante entre guillemets dans cette crise.
Oui, on a parlé hier beaucoup de la question de la fermeture des frontières et on a vu qu'en réalité cette fermeture, elle ne répondait pas seulement à des critères scientifiques sanitaires, mais aussi à des critères politiques évidemment. Dorothée Schmidt, si on regarde la Turquie, là aussi confinement souple, peut-être précisément parce que la situation économique est loin d'être bonne du côté de la Turquie et que ça tout simplement ça a pesé très fort pour ce choix d'un confinement relativement souple.
Oui, alors d'abord un tout petit point de commentaire sur l'Iran, c'est qu'effectivement on nous pose très fréquemment la question, mais on croyait que l'Iran était un pays extrêmement fermé. Comment se fait-il qu'ils aient été le foyer principal et qu'ils aient importé finalement la maladie? Et c'est effectivement tout le paradoxe de l'Iran mis sous cloche par l'Occident, qui se tourne vers l'Asie et qui a ses relations privilégiées avec la Chine. Du côté de la Turquie, on a un pays qui a une structure industrielle qui est quasiment autosuffisante, mais qui ne peut pas financer son économie et dont l'économie était déjà au bord de l'écroulement complet. Donc effectivement, la crise sanitaire, ce n'est pas un défi sanitaire pour Erdogan, c'est une opportunité diplomatique, mais il y a un vent de panique économique qui souffle en Turquie, c'est très évident. Les sondages disent que les Turcs s'attendent tous à une crise économique très grave dans les mois à venir. On l'attend en réalité depuis au moins 2 ou 3 ans en Turquie. Et comme dans beaucoup de pays, ça sera la même chose en Europe, hein, c'est la même chose déjà en Europe, on a cette espèce de dilemme complet entre mettre le pays totalement à l'arrêt et mettre l'économie en danger et afficher des objectifs de santé publique qui sont très très stricts, très forts et optimistes pour la Turquie. La particularité de la gouvernance turque par rapport à celle de pays d'Europe méditerranéenne, puisqu'aujourd'hui c'est un peu la comparaison qui saute aux yeux à la fois géographiquement et puis à cause des relations tout simplement entre ces pays. On a travaillé un peu sur la modernisation de l'union douanière et des relations économiques entre la Turquie et l'Union européenne, et on voit que par exemple la Turquie est un pays qui a des relations fortes économiques avec l'Italie. Les Italiens ont reçu de l'aide sanitaire de la part de la Turquie. Il y a eu toute une démonstration des Turcs comme des Russes de donner de l'aide sanitaire à l'Italie. Mais la particularité de la gouvernance en Turquie, c'est qu'elle est quand même très verrouillée et très stricte, et donc on a ce qui a pu être interprété au départ comme des cafouillages complets sur le confinement, qui est en fait une forme de confinement souple, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'il faut permettre aux gens de travailler pendant la semaine. Ensuite on avait confiné en gros les vieux et les très jeunes, puis finalement on a laissé partir une partie des jeunes pour qu'ils puissent continuer à travailler, parce que comme dans tout le Moyen-Orient, on a aussi un risque de surchauffe sociale si on interdit aux gens de travailler. Puis comme l'a dit Armin, on a aussi cette question du travail informel qui s'est beaucoup développée en Turquie avec la dégradation de la qualité du tissu économique en Turquie. Donc on peut pas confiner les gens à la maison si on sent qu'ils arrivent à la limite du seuil de pauvreté ou qu'ils vont avoir des difficultés à vivre. C'est très compliqué. On n'est pas simplement dans une sorte d'idée de la crise économique quasiment virtuel comme on l'a en Europe, parce que les filets sociaux sont extrêmement puissants malgré tout dans nos pays. Donc effectivement, il y a des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois, mais qui quand même y arrivent. Alors qu'en Turquie ou dans d'autres pays de la région, on risque effectivement d'avoir des gens dans la rue qui manifestent parce qu'ils ont plus à manger. Donc il a fallu déconfiner ou gérer le confinement avec du stop and go. Et ça, le gouvernement peut se permettre de le faire, parce que quand il dit un truc, tout le monde s'aligne, le petit doigt sur la couture du pantalon, on n'a pas le choix.
Armin Arefi, pour revenir sur la question de l'information, de la vérité, du mensonge, vous faisiez tout à l'heure allusion à cette affaire du Boeing, d'Ukraine Airlines, qui a été abattu le 8 janvier dernier, qui a eu pour effet de provoquer une vague d'indignation et même de mobilisation dans tout le pays. Et il y a ce mensonge des autorités qui, pendant plusieurs jours, vont nier la responsabilité des autorités, malgré des preuves qui étaient absolument évidentes. Hein. Je pense à notamment ces vidéos révélées par le New York Times, où on voit le missile toucher l'appareil. Et ce mensonge des autorités sur l'origine de l'accident, il a évidemment encore renforcé la méfiance d'une partie, en tout cas, de la population à l'égard de leurs responsables. Si on revient un tout petit peu sur les chiffres, probablement pas tout à fait justes, de la crise sanitaire, même si, une fois encore, beaucoup de pays sont concernés par des difficultés à mesurer exactement la crise sanitaire, mais est-ce que l'intention, justement, de mentir une fois encore à la population est en train de devenir insupportable aux yeux et aux oreilles des Iraniennes et des Iraniens, ou jusqu'où est-ce que la population est prête à accepter qu'on lui cache comme ça des informations, Armin Arefi?
Alors, je pense qu'il y a eu ce sentiment au début de la crise du coronavirus, notamment en raison des manquements, du cafouillage, même des mensonges au début de la crise au niveau de la ville de Rome, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Maintenant, je pense que ce n'est plus le sentiment dominant aujourd'hui, car on peut estimer, même si les chiffres sont encore bien sûr pas définitifs, et que l'Iran est dans une phase de déconfinement depuis maintenant un mois, que le pays s'en est relativement bien sorti, notamment par rapport à ce que l'on craignait au début de la pandémie.
Maintenant, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut laisser, pardon de vous couper, Armin Arefi, hein, mais est-ce que ça veut dire qu'en Iran, on laisse précisément les journalistes travailler sur ce sujet-là, on laisse les informations sur ce thème de la Covid émerger sans aucun souci, voire au contraire?
Alors, on va pas dire qu'on les laisse, mais en tout cas, la situation, il y a des journalistes en Iran qui effectuent leur travail dans des organes officiels ou semi-officiels, il y en a beaucoup, et il faut savoir que la presse étrangère cite souvent, comme vous le disiez, des rapports du Parlement. Beaucoup de membres, par exemple, de la municipalité, du conseil de la municipalité de Téhéran, ont donné des informations sur telle ou telle fosse commune qui avait été préparée dans le plus grand cimetière du pays. Donc il y a quand même des informations qui passent. Pareil, beaucoup de médecins iraniens sont connectés à la chaîne Telegram, donc c'était le réseau social privilégié en Iran, où tout un tas d'informations quotidiennes sont publiées. Donc voilà, il y a des informations, il ne peut pas y avoir un contrôle total, même si en parallèle, il y a eu quand même 320 personnes qui ont été arrêtées par la cyberpolice iranienne depuis le début de la pandémie, et 1300 sites internet qui ont été fermés pour avoir, entre guillemets, propagé de fausses rumeurs. Donc effectivement, on a d'un côté justement cette répression qui se poursuit en Iran, et cette cyberpolice qui agit, que ce soit d'ailleurs sur le coronavirus ou d'autres cas, on y reviendra, mais ça n'empêche pas un certain nombre d'informations dans un pays où l'usage des réseaux sociaux et d'Internet est généralisé, d'être diffusé.
Alors justement, Armin Arefi, je poursuis un tout petit peu et puis je vous passe la parole, Dorothée Schmidt, j'ai une question en particulier pour vous. Mais Armin Arefi, est-ce que sur le sujet précisément du Boeing, je reviens sur cette affaire qui a été très très importante pour l'opinion iranienne, est-ce que sur ce sujet-là, il y a des informations qui sortent aujourd'hui, que les Iraniens entendent? Parce que la thèse aujourd'hui, c'est celle de l'erreur humaine. La thèse officielle des autorités, c'est celle-ci. Sauf que visiblement, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que ça n'a pas été tant que ça une erreur humaine. Et d'ailleurs, vous avez publié il y a quelques semaines, je crois, le témoignage d'un père de famille dont la femme et la fille sont morts dans l'accident. Et lui, il est absolument convaincu que c'est pas une erreur humaine. Est-ce que, par exemple, autour de ce sujet-là, il y a des informations qui filtrent?
Bah écoutez, alors ça, c'était effectivement l'avis de ce père de famille. Alors, il était intéressant de l'interroger. Maintenant, à ma connaissance, il n'y a rien qui permet d'affirmer à ce stade qu'un gardien de la Révolution aurait délibérément voulu abattre cet avion, comme d'ailleurs il y a eu un nouvel incident de ce type-là il y a à peine deux semaines, lorsque un navire de la marine iranienne a été abattu par un autre navire. Donc, les informations que l'on a, c'est que l'officier en question a été arrêté et qu'il va probablement être, enfin qu'il est poursuivi par la justice. Mmh. Mais jusqu'ici, on n'a pas davantage d'informations.
Ouais.
Donc... maintenant, la défiance, juste pour revenir, la défiance que vous évoquiez vis-à-vis des autorités, elle est généralisée. Et ça date pas d'hier.
Bien
c'est
sûr.
Le cas, notamment par exemple pour les manifestations. Aujourd'hui, on est 6 mois. On a célébré entre guillemets commémoré les 6 mois des manifestations monstres de novembre dernier, pour mmh. lesquelles les autorités iraniennes n'ont toujours pas avoué plus que 4 morts, 4 morts au sein des forces de sécurité, alors que Amnesty International, suite à une enquête extrêmement sérieuse, a donné le chiffre de 304 personnes ouais. tuées. Donc ça vient nourrir justement la défiance qui reste extrêmement importante vis-à-vis des autorités.
Dorothée Schmidt, dans les démocraties libérales, la question de la vérité est évidemment très importante. On peut même dire qu'il n'y a pas de démocratie sans vérité. La vérité est donc le travail d'information qui est nécessaire pour la révéler. C'est l'un des piliers de la démocratie. Quel est le statut de cette vérité dans des systèmes comme ceux dont on parle ce matin, et en particulier pour le système turc que vous connaissez particulièrement bien? Pour Erdogan, la vérité, c'est quoi?
Pour Erdogan, la vérité, c'est plutôt un récit national qui est construit au fur et à mesure et qui est destiné à emmener le peuple turc vers le progrès tel que Tayyip Erdogan le conçoit lui-même. Je crois que on n'a pas du tout cette tradition de contre-pouvoir médiatique qui a pu s'installer en Turquie. On n'a pas une qualité de médias d'abord qui est extrêmement forte, parce qu'en réalité ils ont toujours travaillé sous contrôle de l'armée quand la Turquie était une quasi-dictature. Enfin, il y a eu des périodes de dictature militaire, puis des périodes de contrôle du pouvoir civil par les militaires. Et puis maintenant, on a quand même un AKP qui, dans un premier temps, paradoxalement, a beaucoup libéré les médias en Turquie, puis ensuite s'est mis à les contrôler d'une manière légèrement différente, par un système de contrôle économique. Puis ensuite, on a eu la lutte contre Gülen qui a détruit tout un pan des médias indépendants en Turquie.
Contrôle économique, vous faites allusion à quoi ?
La prise de l'achat de médias, tout simplement la compréhension que aujourd'hui il faut utiliser les médias comme une, tout simplement une chambre d'écho hein, de ce fameux récit dont je parlais tout à l'heure. Donc en Turquie, les médias sont contrôlés à 90% par le pouvoir aujourd'hui, par des proches de Tayyip Erdogan, par des hommes d'affaires qui sont proches de lui, par des gens qui sont proches de sa famille. Donc on a eu une fermeture de paysage médiatique. Il ne faut pas dire qu'on ne produise pas de contenu. Mais ce contenu n'est pas un contenu critique. Et puis, il faut aussi voir qu'on est quand même dans une, je dirais quand même dans une région où les théories du complot sont un mode de raisonnement très ancré dans les populations, parce qu'on a un problème endémique de confiance dans les autorités, de toute façon. Donc on ne croit pas systématiquement le récit national, on le prend tel quel, on ne le conteste pas, mais ça ne veut pas dire qu'en son fort intérieur, le citoyen y croit. Donc, comme alternative à la critique médiatique professionnelle, on a tout le monde qui s'érige en critique personnelle et qui invente des théories toutes plus délirantes. Donc, en cette période de coronavirus, comme vous le savez, il y a toutes sortes de théories du complot qui circulent. Donc, dans chaque pays, elle va être dirigée contre les ennemis. Donc là, en l'occurrence, en Turquie, aujourd'hui, on est dans une phase très anti-américaine. Donc, ce qui va obséder les Turcs, c'est de dire que finalement, la pandémie, c'est pas forcément les Chinois qui l'ont organisée, mais il y a peut-être un complot américain derrière, ou bien que les Européens veulent en profiter pour dépecer la Turquie, qui est la grande obsession des Turcs, on veut les dépouiller d'une partie de leur territoire. Donc on a à la fois une faible qualité des médias, un contrôle des médias par le pouvoir pour donner un écho à un récit national positif construit autour de Tayyip Erdogan, et puis de l'autre côté, une population qui... ce défi de ce qu'on lui dit, mais qui n'érige pas d'opinion alternative en contre-récit.
Ouais, et puis pour revenir sur ce que vous disiez sur la question économique, il y a le contrôle direct où effectivement on rachète et puis on remet des journalistes en place qui sont évidemment parfaitement dans la ligne du régime, mais il y a aussi des manières d'exercer une forme d'influence sur les journaux d'opposition. Je pense par exemple à ce qui s'était passé, ce qui s'était passé à l'automne dernier avec Cumhuriyet, qui est le grand quotidien d'opposition. opposition qui avait été bannie par les annonceurs publics pour avoir critiqué l'intervention turque en territoire kurde syrien.
Oui,
donc
oui,
ça, c'est le grand classique en Turquie.
Erratique aussi.
Il est 11h passé 35 minutes. On est avec vous, Dorothée Schmitt, et vous, Armin Arefi, dans cette semaine consacrée aux droits et aux libertés au temps du corona, liberté d'informer, cacher ce virus que je ne saurais voir.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va quitter un tout petit peu la Turquie, on va revenir sur l'Iran qui nous intéresse. Et avant de poursuivre en accueillant un nouvel invité, Jean-François Bayard, je voudrais vous faire écouter une voix qu'on n'entend plus maintenant depuis des mois.
Derrière toutes ces lois qui ont été du jour au lendemain interdites, à aucun moment la société iranienne a pensé perdre ses droits. Simplement, la révolution iranienne est devenue très vite la guerre. Les gens qui parlent de ce temps-là confondent souvent la guerre et la révolution. Il y a eu un très grand moment d'anarchie, comment dirais-je, de l'absence d'équilibre. D'où la raison pour laquelle les gens se sont trouvés un peu beaucoup plus par rapport à l'imam Khomeini, se sont trouvés autour de lui. Parce qu'en fait, cette situation, révolution avec tous ces mouvements, plus la guerre, ne donnait pas de prise sur la réalité. Donc ça, c'est en premier lieu. Et deuxième, vraiment, si vous regardez tous les livres qui ont été publiés au début de la révolution, la question du droit des femmes est première. Simplement, toutes ces questions se sont arrêtées avec la guerre.
Voilà, c'était Fariba Abdelkah qui revenait à ce micro en février 2019 sur le poids de la guerre Iran-Irak et l'acceptation induite de la perte de leurs propres droits des citoyens iraniens, des citoyens et citoyennes iraniennes, l'anthropologue franco-iranienne Fariba Abdelkah, dont les auditeurs de Culture Monde ont très souvent eu l'occasion d'écouter les éclairages sur la société iranienne contemporaine qui est détenue depuis maintenant presque un an dans son pays d'origine. Il y a 10 jours, elle a été condamnée à 5 ans d'emprisonnement pour collusion en vue d'attenter à la sûreté de l'État, alors que le sociologue Roland Marshall, arrêté avec elle en juin 2019, a été libéré fin mars. Le maintien en détention de Fariba Abdelkah illustre de manière assez dramatique les entraves posées à la liberté de la recherche par la République islamique. Bonjour Jean-François Bayard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève. Et vous êtes le coordinateur du comité de soutien à Fariba Abdelkah. Vous avez d'ailleurs participé à cet ouvrage collectif qui vient de paraître pour Fariba Abdelkah et Roland Marshall, chercheur en péril. D'abord, c'est des nouvelles peut-être, Jean-François Bayard, de Fariba Abdelkah. Comment est-ce qu'elle résiste à son maintien en détention et surtout comment elle a accueilli sa condamnation récente?
Fariba Abdelkah, comme vous le savez, est très combative, très lucide sur un rapport de force qui n'est pas à son avantage, puisqu'elle est aux mains de ce qu'elle qualifie désormais de pouvoir à l'envers, celui des gardiens de la révolution, qui ne dépendent que d'un guide de la révolution, Ali Khamenei, qui lui-même est un homme âgé, dans un contexte de succession inévitable dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Donc, un rapport de force qui n'est pas à son avantage. Comme vous le savez peut-être, la première semaine suivante une condamnation pour un détenu est toujours très difficile. Je crois que Fariba Abdelkah encaisse aujourd'hui le coup. Elle reste affaiblie par la grève de la faim de 49 jours, hein, 49 jours de grève de la faim pour réclamer ses droits, pour réclamer la reconnaissance de la liberté scientifique. C'était au mois de janvier. Elle garde quelques séquelles au niveau des reins de cette grève de la faim. Donc une Fariba Abdelkah qui encaisse le coup de sa condamnation, mais dont nous ne doutons pas de la détermination à faire reconnaître ses droits et ceux de la liberté scientifique.
Vous parlez de liberté, justement. Est-ce qu'on peut espérer une libération? Où en sont les discussions diplomatiques à ce sujet? Je vais aller droit au but. On sait que le chercheur Roland Marshall a été libéré grâce à un échange de prisonniers, en l'occurrence un ingénieur iranien qui a été libéré avant d'être extradé vers les États-Unis. Est-ce que ce scénario est possible pour Fariba Abdelkah?
En réalité, Fariba Abdelkah est dans une partie de billard à 3 bandes. La première bande, c'est effectivement celle des négociations diplomatiques ou paradiplomatiques entre la France, l'Iran, d'autres protagonistes également, puisque vous le savez, la libération de Roland Marshall s'est également accompagnée de la libération d'un otage américain. Donc en réalité, c'est une négociation à 3. Donc il y a cette première bande hein, de la partie de billard sur laquelle par définition nous ne savons rien sinon que la diplomatie française est extrêmement engagée pour obtenir la libération de sa ressortissante, parce que la diplomatie française a toujours considéré que Fariba Adelkha, qui est binationale, est une citoyenne française à part entière. Et cela est d'autant plus notable que telle n'est pas la position de toutes les diplomaties européennes. Par exemple, les universitaires ou environnementalistes, etc., binationaux britanniques, sont moins bien traités et moins bien considérés par Londres que notre compatriote Fariba Adelkha. La deuxième partie, la deuxième bande de la partie de billard, c'est la confrontation entre Fariba Adelkha et ses geôliers. On lui a fait miroiter la possibilité d'une libération conditionnelle à condition qu'elle renonce à ses recherches et à son métier. Et elle a opposé une fin de non-recevoir. Elle veut récupérer son ordinateur, ses notes, son droit à faire des recherches et son droit à circuler entre la France et l'Iran. Et la troisième bande de la partie de billard, elle est judiciaire, puisque l'avocat va faire appel de cette sentence de 6 ans hein, et non pas 5 ans de prison. Mais là, nous avons assez peu d'espoir, puisque cette justice est complètement aux ordres des gardiens de la Révolution.
Vous soulignez tout à l'heure, Jean-François Bayard, les efforts de la diplomatie française, et évidemment, on ne doute pas un seul instant qu'on fait tout pour obtenir la libération de Fariba Adelkha. Est-ce qu'on utilise tous les leviers ? Il y a aujourd'hui encore des coopérations scientifiques et culturelles entre la France et l'Iran, et visiblement il y a, et là pour le coup du côté français, un refus à vouloir trop en faire, à vouloir envisager la suspension d'une coopération scientifique et institutionnelle avec l'Iran. Comment est-ce que vous comprenez ce refus de suspendre cette coopération scientifique avec l'Iran ? Parce que ça serait évidemment un levier de pression forte sur Téhéran.
La position du comité de soutien a été d'abord de bien insister sur le fait que Fariba Adelkha, comme hier Roland Marshall, sont des prisonniers scientifiques, c'est-à-dire ils ne sont pas des prisonniers politiques au sens propre du terme, puisque ni l'un ni l'autre n'ont jamais eu d'activité politique à propos de l'Iran et encore moins en Iran. Donc ce sont des prisonniers scientifiques qui sont otages politiques et soumis à un procès d'ordre politique ou à une justice politique. De ce fait, il nous semble assez logique, et chaque mot a été pesé, de suspendre la coopération institutionnelle avec l'Iran, à l'exception, et ça nous l'avons toujours dit, de l'accueil des étudiants, parce qu'il n'y a aucune raison de faire payer aux étudiants iraniens des turpitudes de leur gouvernement ou des gardiens de la Révolution.
Sauf qu'on vous oppose une fin de non-recevoir.
On nous oppose une fin de nous recevoir, mais je tenais à rappeler les termes, parce que parfois... par exemple, nous n'avons jamais parlé de boycott, nous n'avons jamais parlé de rupture. Simplement, on ne voit pas très bien comment, à la fois pour des raisons de décence et par réalisme, l'on peut continuer à faire de la coopération institutionnelle, ce qui n'exclut pas des échanges personnels, avec un pays qui systématiquement détient des otages universitaires. Alors, à vrai dire, aussi bien le ministère des Affaires étrangères que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, si tant est d'ailleurs que celui-ci s'exprime, ce qui reste à prouver, sont opposés à cette suspension. Nous pouvons comprendre d'une certaine manière, bien que nous la désapprouvions, mais nous pouvons comprendre la position des diplomates dont le temps est autre, dont les techniques sont autres, ils ont leurs raisons, qui sont celles de négociateurs, tout en regrettant la position du ministère des Affaires étrangères, nous pouvons la comprendre. En revanche, que les choses soient très claires, nous ne comprenons pas le silence extrêmement choquant de Madame Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a eu quand même pendant quasiment un an, deux de ses chercheurs et qui aujourd'hui a encore une de ses chercheuses en prison, sans qu'elle ait jamais exprimé la moindre empathie Lorsqu'on l'interroge sur le sujet, elle passe la patate chaude à son collègue Yves Le Drian, et là il y a un silence assourdissant qui nous interroge. La réponse, c'est sans doute que une partie de la communauté scientifique elle-même, je pense en particulier aux archéologues, aux biochimistes, aux physiciens, à la médecine également, ne souhaite pas injurier l'avenir et souhaite garder en dépit d'essence un minimum de lien avec l'Iran. Et cela, naturellement, ça nous choque profondément. J'ai d'ailleurs remarqué que Mme Vidal est biochimiste de son état. Il y a peut-être un rapport de cause à effet dans ce silence.
Je voudrais faire réagir peut-être nos deux invités, Armin Arefi et Dorothée Schmidt. Armin Arefi, peut-être d'abord... parce que d'abord, vous connaissiez Fariba Adelkha. D'ailleurs, vous étiez présent en plateau quand j'avais invité Fariba Adelkha la dernière fois en février 2019, quand on vient de diffuser un extrait de cet échange-là. Comment vous voyez les choses? Il y a évidemment, comme le disait Jean-François Bayard, c'est un billard à plusieurs bandes. Alors, on va passer sur les raisons possibles, les hypothèses internes qui expliqueraient la détention de Fariba Adelkha. Mais est-ce qu'on peut formuler l'hypothèse que cette arrestation a aussi pour objectif de dissuader les chercheurs français à se rendre en Iran pour faire des terrains? Je vous pose la question à dessein, Amin Arefi, parce que vous êtes grand reporter au Point et que vous avez été correspondant en Iran et qu'il vous est arrivé un petit peu la même chose, puisque vous aussi, vous avez à un moment été empêché de poursuivre votre travail de journaliste en Iran. Amin Arefi.
Ouais, mais je n'ai pas été emprisonné.
Bien sûr. Moi, bien sûr. J'ai dit empêché, hein, bien sûr.
Ce qui est intéressant à l'époque, c'est que on m'a dit rentre dans ton pays, c'est-à-dire la France, alors que j'étais en Iran avec un passeport iranien. J'ai les deux passeports et les autorités iraniennes considèrent les détenteurs du passeport iranien que comme iranien. C'est-à-dire que malgré mon autre passeport, j'étais considéré sur le papier comme iranien, mais on m'a dit rentre dans ton pays, la France. Concernant le cas de Fariba Adelkha, effectivement, c'est la pire chose qui puisse arriver pour un ressortissant binational. Et je pense qu'elle a énormément de courage de par la grève de la faim qu'elle a effectuée, mais également le fait qu'elle ne perd pas courage d'après les informations que l'on a de son avocat. Elle est aujourd'hui à la tête de la bibliothèque de l'aile de sa prison. Elle donne également des cours de français à ses co-détenus, dont l'illustre avocate iranienne Nasrin Sotoudeh. Donc on voit clairement qu'elle ne perd pas courage et qu'elle reste extrêmement digne, et ceci alors que son collègue et compagnon Roland Marchal a été libéré il y a un mois. Maintenant, effectivement, comme le disait Jean-François Bayard, c'est un billard à plusieurs bandes. Clairement, on a le sentiment qu'elle est une monnaie d'échange entre les mains des gardiens de la révolution, et que ce n'est pas le gouvernement iranien mais les gardiens et en dernier lieu le guide suprême qui décide, et que la justice, le procureur Salavati du tribunal révolutionnaire est aux ordres. Maintenant, le sentiment que l'on a, c'est que son sort dépend davantage de celui des relations diplomatiques extrêmement tendues entre l'Iran d'un côté et les États-Unis. On sait que notamment via ce qui s'est passé, l'épidémie de coronavirus, l'Iran a réclamé par exemple un prêt de 5 milliards d'euros au fonds monétaire international qu'elle n'a pas obtenu sous pression américaine. Donc on sait également que les Américains sont en train de tout faire sur le plan diplomatique pour que l'embargo sur les armes à destination de l'Iran soit prolongé. Donc clairement, on a le sentiment que le cas de Fariba Adelkha et celui plus globalement des otages binationaux rentre dans cette partie de poker entre d'un côté les Américains et de l'autre les Iraniens.
Donc un environnement très compliqué, je comprends Armin Arefi. Dorothée Schmidt, peut-être un tout petit mot de commentaire si vous le souhaitez. Et
puis... je pense qu'il y a deux choses qui me semblent très importantes là-dessus. C'est d'un côté la difficulté d'informer et de s'informer sur l'Iran. Donc ça, c'est tout à fait évident. Il faut être extrêmement courageux pour travailler sur l'Iran, parce qu'on sait qu'on est sous la menace permanente de la censure, d'une éventuelle arrestation, d'intimidation. Et ça rend aussi les contenus pertinents d'autant plus difficiles à produire, parce qu'il faut sans cesse jouer avec des codes très complexes. Et puis là, on est à l'intersection avec la question diplomatique. C'est-à-dire qu'on on est à nouveau dans une crise diplomatique extrêmement grave sur l'Iran, avec la faillite d'un processus multilatéral de réinsertion finalement de l'Iran dans le système international. Et là, du coup, on retombe sur ces concurrences de pouvoir que viennent de décrire Armin Arefi et Jean-François Bayard. Et là, c'est, pardonnez-moi l'expression, ça devient indémerdable. C'est-à-dire qu'effectivement, pour n'importe quelle diplomatie organisée, se retrouver à discuter avec un gouvernement qui à la fois a une diplomatie qui est très forte, très intelligente, très stratège, et un système de pouvoir extrêmement complexe, c'est très 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 compliqué, bien entendu.
Merci beaucoup en tout cas Jean-François Bayard qui a été avec nous par téléphone. Je rappelle donc que vous avez participé à cet ouvrage collectif pour Fariba Adelka et Roland Marchal, chercheur en péril, qui est paru aux éditions de Sciences Po. Vous parliez de pays où il est difficile de produire de l'information. Il y en a un où c'est plus que jamais difficile de produire et diffuser de l'information, c'est l'Algérie. On y va tout de suite.
إذاعة كورونا الدولية إذاعة نهاية العالم من الولايات المتحدة الأمريكية بؤرة انتشار وباء كورونا
Diffuser de fausses informations est désormais passible de sanctions pénales, sauf si vous êtes au gouvernement.
Bienvenue à vous, chers survivants de l'apocalypse, chers résidents de la République algérienne démocratique et populaire. Bienvenue à vous sur Radio Corona International, la radio algérienne de la fin du monde, de la fin d'un monde, de la fin de leur monde.
Voilà, alors que l'épidémie a offert une triste opportunité au pouvoir algérien de suspendre le Irak, ce mouvement populaire, et d'accroître encore la répression sur les opposants, le journaliste exilé aux États-Unis Abdallah Bennadouda a lancé une web radio pour faire vivre cette flamme du mouvement. On va le retrouver tout de suite par téléphone. Bonjour Abdallah Bennadouda.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct depuis la côte est américaine. Donc il est très tôt chez vous. Je vous remercie infiniment de vous être levé plus tôt. Vous êtes journaliste et c'est vous qui avez donc créé Radio Corona International. Vous nous dites un peu en quelques mots l'objectif qu'il y avait au départ de cette radio de la fin du monde, comme vous l'avez surnommée.
Au départ, franchement, c'était une idée simple. C'était discuter entre nous et échanger avec les Algériens juste pour casser le confinement, pour se sentir moins seul. Et comme vous l'avez annoncé en début de sujet, il s'est avéré que le début du confinement a coïncidé en Algérie avec un durcissement terrible de la répression et l'augmentation des arrestations. Mmh. Donc forcément, qu'on voulait juste créer pour casser le confinement, on s'est transformé un peu en porte-voix, porte-voix des prisonniers politiques et des arrestations, et voilà.
Répression générale, mais répression en particulier sur les journalistes. Plusieurs ont été arrêtés. Je pense par exemple à Khaled Drareni, qui est fondateur du site indépendant Kasbah Tribune, qui est représentant d'ailleurs de RSF en Algérie, qui a été incarcéré depuis plusieurs semaines maintenant pour avoir précisément couvert le Irak. Donc on voit bien que cette ambition de museler toute information qui ne serait pas dans la ligne du pouvoir est beaucoup plus forte depuis l'émergence de cette crise sanitaire. C'est très clair.
C'est très clair, et oui, Khaled Drareni est l'exemple type du durcissement de la répression pendant la pandémie, parce que Khaled Drareni, en fait, il est accusé il est innocent, c'est-à-dire il a été plusieurs fois interrogé par les services de sécurité, et ce qu'on lui reprochait, c'était de faire des tweets. C'est incroyable, mais en 2020, on peut reprocher à un journaliste de faire son travail. Et avant la pandémie, il a été un peu arrêté et il est passé au tribunal, sauf qu'il n'a pas été arrêté parce qu'il y avait quand même une mobilisation énorme à l'extérieur du tribunal. Il a été mis sous contrôle judiciaire, comme ils disent. Mais quelques jours après le début du confinement, il a été arrêté et mis sous mandat de dépôt. Mmh. Mais ils ont fait ça avec plusieurs personnes, beaucoup d'activistes et sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sont arrêtés pour un an. Les journalistes Khaled Drareni est arrêté. Le site de Radio 1, qui est une web radio que l'on salue, et le site de Maghreb Émergent. sont inaccessibles à partir d'Alger, le site Interligne aussi, d'autres sites internet algériens ont des difficultés à retrouver une connexion normale en Algérie. Clairement, depuis le début du confinement, il y a un durcissement de la répression. Oui,
durcissement de la répression, et puis il y a aussi une forme d'autocensure du coup qui se met en place avec cette pression qui est extrêmement forte. Je pense en particulier au site satirique El Manchar, qui lui aussi a décidé de cesser d'émettre, et son fondateur Nazim Baya a expliqué qu'il n'y avait pas eu directement de censure ou de blocage, mais que le climat de répression des libertés est tel, les incarcérations sont telles que, eh bien, la rédaction a décidé de cesser leur activité compte tenu des risques qui sont encourus. Est-ce que c'est quelque chose que vous discutez, vous, avec les personnalités qui participent à votre radio Corona International? Parce qu'il y a beaucoup de chroniqueurs. Alors, il y en a qui sont exilés comme vous, mais il y en a qui sont encore en Algérie. Est-ce que c'est quelque chose que vous évoquez avec eux? Ils n'ont pas peur, ces personnes, de se mettre en danger en participant à votre programme?
On en discute tous les jours, en fait. Mmh. Tous les jours, on se repose la question. Du moins, moi, je leur pose beaucoup la question parce que j'ai un problème de conscience et je me dis que moi, je suis loin et en sécurité et que s'il y a un problème, ils vont payer. Néanmoins, vous savez, les Algériens se sont soulevés le 22 février 2019. Ils ont créé une des plus belles révolutions du monde, une révolution pacifique, ce que tout le monde a appelé la révolution du sourire. Ils ont fait chuter l'un des dictateurs les plus anciens du monde, et ils n'ont pas l'intention de reculer. Donc il y a une inquiétude, évidemment, mais il n'y a pas de peur. Donc du moins, travail est un grand mot parce que c'est une radio bénévole, ceux qui participent à Radio Corona International ne veulent pas lâcher. Ils estiment qu'ils ne sont pas en train de faire quelque chose d'illégal. Ils sont le porte-voix de gens qui sont opprimés, ils disent les choses, vous savez, dans l'émission, on rigole beaucoup, on est ironique, on parle de culture, on parle pas uniquement de politique, et ces choses-là ne devraient pas être répréhensibles en 2020, c'est impossible, et je crois que la majorité du peuple algérien, pas seulement ceux qui collaborent avec moi dans Radio Corona, ne veulent pas lâcher, donc le combat continue.
Oui, je confirme que c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour, hein. J'ai pas tout entendu, mais j'ai notamment entendu quelques extraits de l'émission du 22 mai dernier, il y a deux émissions par semaine, c'est effectivement très drôle. Qu'est-ce que vous allez faire en quelques mots? Vous allez prolonger Radio Corona International après la crise sanitaire? Vous avez l'intention de rester sur cette activité-là? Vous le disiez qu'est bénévole, mais ça vous a repris ce virus de la radio, hein. Vous l'aviez quitté il y a quelques temps, vous voilà à nouveau pris par ce virus, vous allez poursuivre?
Plus que jamais, oui, ouais. Je suis hyper motivé pour poursuivre. Il y a aussi une attente de la part de nos auditeurs. Oui, effectivement, le Covid-19, ce virus, m'a redonné le virus de la radio. Et vous savez, bon, c'est un peu personnel, mais quand on est en exil et qu'on voit une révolution naître dans son pays, on est un peu frustré. On cherche par n'importe quel moyen d'être utile à la révolution. Et voilà, avec Radio Corona, je me sens enfin utile à la révolution, et évidemment, je ne vais pas lâcher.
Alors, je vous souhaite pas un prompt rétablissement, ne jamais guérir du virus de la radio, c'est ce que je vous souhaite, Abdallah Benadouda, et bon vent donc à Radio Corona International. موقع جنبش رازیستم هوش یاریم شب را نشکافت. Un grand merci. Et évidemment, on mettra un lien pour pouvoir écouter cette Radio Corona International, cette web radio, lien sur la page de Culture Monde, comme un lien d'ailleurs sur cette très belle musique iranienne qui nous accompagne pour clore cette émission. Un grand merci à Armin Arefi et Dorothée Schmidt qui est avec nous ce matin. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert. Nous, ça sera demain 11h. On poursuit notre série sur les droits et libertés au temps du Corona.